Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RTL avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès, avec Sébastien Rocheron aujourd'hui à la technique de l'heure du crime pour une nouvelle édition consacrée à ce que l'on peut certainement appeler un cas d'école de l'erreur judiciaire. Nous revenons sur le dossier Mauvilain, c'est comme ça qu'on a nommé l'affaire Mauvilain, parce que sur RTL.fr, vous le savez, on vous dit, ben, si vous voulez qu'on mettre à la une de l'émission une affaire criminelle qui vous a particulièrement marqué, dites-le nous. Vous allez sur RTL.fr, à la page de l'heure du crime, vous avez un petit bouton, soumettez une idée à l'émission. Et alors, ce que je regrette simplement, c'est qu'il y a pas mal d'auditeurs de l'heure du crime qui nous demandent régulièrement de parler de cette affaire, mais personne nous a dit pourquoi elle les avait particulièrement marqués. Alors vous me direz, peut-être parce que les auditeurs avaient l'embarras du choix. On va voir ça tout de suite avec mes invités. Mes invités qui sont aujourd'hui deux acteurs de l'époque à des titres différents. Maître Jean-Yves Dupeux, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir de venir parler de cette affaire.
Et oui, parce que vous n'étiez pas au premier procès de Guy Mauvilain, ce procès sur lequel on va revenir quand même dans un petit instant, parce que le cas d'école, c'est aussi ce procès, hein, bon. Et puis, Paul Lefebvre, bonjour Paul.
Bonjour Jacques.
Pour reprendre une expression qui vous colle un peu à la peau en ce moment sur Planète Justice, les cicatrices de la justice, voilà une blessure qui a dû avoir bien du mal à se refermer, et des magistrats qui ont peut-être pas dormi sur leur deux oreilles pendant quelques années, quand même, non ?
Mauvilain a été victime d'un concours de Baderne. Baderne, le médecin légiste, Baderne, le président, Baderne, les instructions, Baderne, les flics, et Baderne, son avocat.
Parce que de l'époque,
Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Si Dupeux avait été là au premier procès, ça ne serait jamais produit comme ça. Oui. Parce qu'on va le rappeler, ça a duré une journée. Oui.
Voilà. Et un délibéré de 20 minutes. Hein.
25 minutes de délibéré.
Enfin, on envoie un type en 18 ans en tôle.
Oui.
Alors
moi, c'est une des premières questions que je vais vous poser, Maître Dupeux. D'abord, bon, ça a eu lieu, c'est pas de l'invention. Est-ce que c'était que courant à l'époque ?
Alors, écoutez, vous avez raison de dire que c'est le cas d'école de ce qui ne doit pas se faire dans la justice. Parce que on se trouve avec un meurtre non élucidé, sans aveu, sans témoin, sans arme du crime, sans mobile, sans rien, avec uniquement trois procès-verbaux de trois personnes qui ont été entendues d'ailleurs très rapidement au tout début de la procédure, qui tous disent que cette vieille dame qui a été assassinée, enfin, ou qui a été très gravement blessée avec des coups à la tête, avec le crâne complètement
défoncé, une agression, en tout cas,
Elle est restée une heure et demie dans le coma, et elle murmure à trois personnes, c'est-à-dire le médecin qui est de passage dans la rue.
On reparlera de lui dans un instant avec Paul Lefebvre.
L'interne du SAMU et l'ambulancier, elle murmure dans des termes d'ailleurs qui sont relatés, vous les avez lus tout à l'heure, mais ils sont relatés dans des procès-verbaux écrits, c'est réécrit, c'est le lendemain.
On y vient dans un instant.
Elle parle de l'infirmière qui fait des piqûres à sa sœur, le mari. Elle dit Mauvilain, d'ailleurs les trois, j'ai relu ce matin les trois déclarations, elles ne sont pas identiques, toutes les mêmes. L'une dit c'est l'infirmière qui fait des piqûres à ma sœur, l'autre ne parle plus de piqûres, le troisième dit c'est le mari de l'infirmière, et puis une dit il y a un petit temps de suspension, et elle dit Mauvilain. Donc on ne sait pas du tout. On sait que dans l'entourage, c'était le couple Mauvilain était des gens qui rendaient service, etc. On sait que Madame Mauvilain avait souvent dit, si vous arrive quelque chose,
faites appel à nous,
mon mari, etc. Donc on ne sait pas. Et cette femme est restée, et c'est sur ces trois procès-verbaux, et sur rien d'autre,
que cet homme a été condamné.
Huit mois après une instruction extrêmement rapide, beaucoup trop rapide, dans laquelle on ne fait l'instruction, si vous voulez, au lieu de chercher la vérité, une fois qu'il y a eu cette dénonciation de Mauvilain, ne fait que tourner autour pour conforter.
Bon, alors évidemment, vous baignez dans le dossier, Paul Lefebvre aussi. Moi, par la force des choses, je viens de passer quelques longues heures à relire tout ça. Mais pensons à ceux qui nous écoutent. Alors, Paul Lefebvre.
Il y a un élément essentiel en continuant ce que vient de dire Jean-Yves, lorsque je suis arrivé à Poitiers, parce qu'elle a été transportée...
Non mais alors justement, Paul, excusez-moi. Je pense aux gens qui ne connaissent pas l'histoire. Alors, vous allez dire ce que vous voulez dire dans un instant, mais d'abord, on va mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent exactement les circonstances dans lesquelles tout ça a éclaté. On est le 9 janvier 75. Il est entre 20h et 20h30, c'est une soirée d'hiver. Il y a peu de gens dans les rues.
La rue est étroite, hein, les longues et très étroites.
Il fait nuit noire. Au 51, j'ai oublié l'adresse exactement...
Un pavillon en meulière sympa qui a collé à un autre.
Oui, hein. Un petit 51 avenue Jean Guiton à La Rochelle.
Devant, il y a un coiffeur qui va intervenir. Puis je sais pas quoi. Enfin,
alors, dans cet immeuble, il y a une vieille dame. Elle a 76 ans. C'est une ancienne professeure de piano retraitée qui vit là.
À moitié aveugle et beaucoup sourde.
Bon. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi on appelle les secours? Qu'est-ce qui se passe?
Le problème, c'est que entre sa maison et celle de la voisine, c'est-à-dire une dame et sa fille.
Oui.
Il y a un mur qui est pas très... Elle entend des cris.
D'accord.
Et cette jeune femme-là, dont je me souviens plus du nom, c'est dommage d'ailleurs, appelle le coiffeur d'en face, en disant ce qui se passe chez
Mademoiselle
Meillon, etc. Et lui, le coiffeur arrive... Et c'est lui qui alerte les policiers.
D'accord, parce qu'il trouve le crâne fracassé, mêlant dans une mare de sang.
Non, pas du tout. La porte est fermée.
Ah bon?
Et les pompiers, ils sont obligés de passer par derrière, de casser une porte et rentrer là, ils voient.
D'accord.
Pourquoi? Parce que la porte, elle était méfiante. Et ça, c'est un vrai problème, ces vieilles dames. Elle était méfiante comme tout. Il y avait une dizaine de verrous.
Ah d'accord.
Donc le problème, l'une des questions qui se pose encore aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qui l'a tué, pourquoi a-t-elle ouvert à qui?
Bien sûr. Voilà. Bon. Alors attendez, on reste sur les circonstances. Donc, vous venez nous rappeler, coiffeur appelle les pompiers, etc. Il pénètre par l'arrière, il trouve cette pauvre femme baignant dans une mare de sang avec le frein de frein cassé, vous disiez tout à l'heure vraisemblablement à coup de marteau, enfin en tout cas un instrument...
Un objet contondant, jamais su ce que c'était.
Voilà, comme on dit. Et puis, donc, il y a l'ambulance du SAMU, des pompiers, on appelle la police en même temps. Et il y a un certain docteur Girard.
Qui passe par hasard,
qui connaît.
Légiste.
Mais qui connaît Mademoiselle Meillon, c'est ça? D'une connaissance, quoi.
Ils se connaissent comme ça.
Enfin, voilà. Il voit les ambulances, il va voir ce qui se passe.
Il rentre
dans l'appartement.
Les infirmiers, ils sont en train le SAMU est en train de. Lui, il arrive, il est médecin, il rentre, il bascule un peu tout le monde, il tripote. L'un des infirmiers, il y a un PV là-dedans dans lequel il voit le docteur Girard tripoter dans le crâne de Mademoiselle Meillon.
Oui, c'est un des pompiers, d'ailleurs. C'est un des pompiers.
On peut lui faire la grâce de penser qu'il veut peut-être l'aider quand même, Paul. Vous n'aimez pas le docteur Girard, j'ai compris.
Le pompier dit j'ai été obligé d'insister pour qu'on l'emmène à l'hôpital, parce que lui disait non, de toutes les façons, elle est morte ou elle va mourir, et autant laisser, comme il est légiste, médecin légiste, autant laisser la scène du crime.
C'est cet homme-là, ce médecin-là, qui, profitant peut-être d'un moment où on pouvait penser que cette vieille dame était consciente, lui dit, ils étaient combien? Il lui pose une rafale de questions, en fait. Maître, vous avez relu les...
Oui, alors...
Il ne pose pas tout de suite la question qui vous a fait ça.
Il a cogné très fort. Voilà, c'est la première chose qu'elle dit.
Oui.
Et alors, elle lui dit, il lui pose la question, ils étaient plusieurs ou un seul? Elle répond, d'après lui, un seul.
Oui.
Et puis, elle ajoute, c'est le mari de l'infirmière...
Parce qu'il vous dit qui vous... Il lui dit qui fait les piqûres, qui était-ce.
Oui. Mais je ne sais même pas s'il l'interroge. C'est le mari de l'infirmière qui fait les piqûres à ma sœur.
Et elle dit le nom
et de là-dessus, Mauvilain. Elle ajoute Mauvilain. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que dans cette première déclaration à la police, le médecin en tire la conclusion, qui est écrite noir sur blanc, je me suis dit que on pouvait penser que c'était Monsieur Mauvilain, ou qu'elle avait pu penser que c'était Monsieur Mauvilain. Il émet un doute.
D'accord.
Elle est bonne, sa première déclaration, parce qu'après, il change complètement. Il affirme.
Un tout petit élément de complément avant une pause, et puis on se retrouve tout de suite après. C'est pas à vous que je vais faire la leçon, Paul Lefebvre. Juste un mot. Il se trouve qu'on a dit ça très rapidement. Yvette, je crois, la femme de...
C'est pas de piqûre?
de Guy Mauvilain. Elle fait pas de figure.
Elle
travaille à l'hôpital, elle est aide-soignante.
Elle est pas
donc elle n'est pas infirmière. Mais elle a dit à Mademoiselle Meillant et à sa sœur,
oui,
un jour, dans
si
une
vous
conversation.
Avez des problèmes, appelez mon mari. Je ne suis pas
appelez
là,
moi,
appelez mon mari.
Appelez mon mari.
Mais dans le genre, il faut remettre une étagère ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça.
Donc on peut se dire, est-ce qu'elle a désigné son assassin? Est-ce que c'est un appel au secours? Elle dit appelez. Appelez le mari de l'infirmière qui fait les piqûres. Ou alors est-ce qu'elle est dans un délire qui fait que ce voilà,
mais
ces propos.
Mais ajouter après la pause quelque chose.
Bah, alors après la pause, le premier à parler sera Paul Lefebvre. On se retrouve tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Mauvilain, cas d'école dans le domaine des erreurs judiciaires, expression confirmée par maître Jean-Yves Dupeux, qui a été l'avocat de Guy Mauvilain au cours du procès, non pas du procès en révision, mais du deuxième procès, parce qu'on vous expliquera tout à l'heure, je laisserai à celui qui baigne dans les affaires judiciaires le soin de nous expliquer finement, parce qu'à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'appel au procès d'assises.
Bien sûr que non.
Ça date d'après l'an 2000. Je reviens à vous dans un instant. Paul Lefebvre, vous vouliez d'urgence nous dire quelque chose.
Non, mais lorsque j'ai tout repose dans cette affaire-là, sur l'écoute, la traduction de ce qu'ils entendaient des trois témoins, c'est-à-dire Girard, l'interne et l'ambulancier. Tout repose là-dessus. Alors, moi, quand j'ai fait l'enquête pour le film que j'avais fait pour Antenne 2, je dis qu'est-ce qui s'est passé après? Et alors, je me suis retrouvé au service de neurochirurgie de Poitiers, où j'ai rencontré le professeur, je ne me souviens plus de son
Aglin,
grand balèze, sympathique. Ouais. Je vais le voir, et je lui dis, Madame Meillant. Il me dit, il sort du bureau, il sort le dossier. Personne, n'avait demandé les radios.
Déjà, le juge d'instruction n'avait pas
demandé les experts, personne n'avait demandé, il y avait des experts qui avaient été nommés.
Il n'y a évidemment pas eu d'autopsie.
Il n'y a pas eu d'autopsie.
Alors le problème, c'est que moi je dis à ce chirurgien, mais alors dites-moi, vous avez étudié ces radios? Il m'a dit oui, c'est une catastrophe, etc. Alors à ce moment-là, moi je lui racontais tout l'histoire du... Évidemment, il n'a pas été convoqué au premier procès, cet homme-là. Il a été convoqué au second, lui.
Ouais.
Et ce médecin me dit, ce compétent me dit, dans l'état où était son cerveau, elle n'entendait même pas les questions, elle ne savait même pas ce qu'elle répondait, etc., etc. Il y avait un vrai ravage là-dedans, parce qu'elle avait le crâne complètement défoncé, quoi.
Mais elle a parlé, quand même, ça,
Que ce qu'on a entendu et la signification de ce qu'on a
compris.
Ça, c'est d'autres choses. Et ce professeur-là, il me disait, c'est impossible qu'elle ait pu avoir la conscience de ce qu'elle disait.
Oui, d'accord.
Et tout le dossier tourne là-dessus.
Alors, Maître Dupeux, il n'a pas été incarcéré, d'abord mis en examen, et, enfin, à l'époque, on disait inculpé. Et incarcéré uniquement, évidemment, ça a posé d'un poids très très lourd, ce que dit le docteur Girard, elle a désigné son assassin. D'ailleurs, l'avocat général, au cours du procès, va dire, Mauvilain, ça n'est pas moi qui vous accuse, c'est votre victime. Bon, c'est un effet de manche, mais qui peut être dévastateur auprès des jurés.
C'était au premier procès, et ça a porté.
Alors, il y avait autre chose, mais une fois de plus, que dans la foulée de ce que vient de dire Paul Lefebvre, on a trouvé une tache suspecte sur une manche d'un imperméable de Guy Mauvilain, mais qu'on n'a pas analysé. On a considéré qu'il s'agissait d'une tache de sang, non?
Ça s'est passé assez longtemps après, si vous voulez, puisque si on veut revenir, la nuit où les faits se produisent, comme elle a prononcé le nom de Mauvilain, la police vient dans la nuit,
bien sûr,
chez Mauvilain.
Oui.
Il réveille le couple. Il faut quand même savoir que Mauvilain a eu à 19h un entretien avec son voisin du dessus.
Ouais, chez lui, bon.
Puis, il a préparé le dîner, du poisson bouilli avec des pommes de terre.
Ouais, qu'il a fait dans le garage à cause des odeurs.
Absolument. Et puis, à 21h50, il a sorti sa voiture, il a pris sa voiture.
Comme d'habitude.
Les témoins, là aussi, en font état. Et il est parti à 22h chez chercher sa femme qui venait terminer son service.
De nuit à l'hôpital.
Ils sont rentrés tous les deux, ils ont dîné, se sont couchés.
D'accord.
Dans la nuit, les policiers viennent.
Et son nom a été prononcé,
c'est ça, 20h30, on pense 20h30 à peu près.
20h30.
Et dans la nuit, les policiers viennent le voir.
Parce que la petite elle parle de la télévision qui commence, qui était les Brigades du Tigre.
Absolument.
Je me souviens. C'est comme ça qu'on a...
Et donc, on vient le voir, les policiers font une description, disant il a l'air abasourdi de ce qu'on vient lui dire, de ce qui s'est passé. Et il est laissé en liberté. On l'emmène même pas en garde à vue, on l'emmène même pas au poste. Et ça n'est que quelques jours après qu'il va être convoqué, placé en garde à vue, maintenu en liberté. Oui. Et ça n'est que lorsque, il se passe rien de plus, mais ça n'est que lorsque Mademoiselle Meillon meurt, qu'il y a un grand mouvement d'opinion sur les agressions.
Elle meurt le 28 janvier.
Voilà. L'agression a eu lieu le 9. C'est après sa mort qu'il est inculpé et placé en détention.
Quand est-ce qu'on a en coma, elle a pas
repris connaissance.
Quand est-ce qu'on s'est rendu compte les enquêteurs ou le juge d'instruction que Guy Mauvillain avait ce qu'on peut appeler entre guillemets un passé judiciaire?
Bon, c'est un peu après qu'il ait été placé en détention et inculpé, puisqu'à l'époque c'était l'expression. Et on s'est aperçu qu'il avait un passé judiciaire qui datait d'une trentaine d'années avant. Il faut savoir que Guy Mauvillain avait 55 ans au moment des faits.
Ça datait d'une
époque, il avait une vingtaine d'années. Et comme quelquefois des jeunes gens à 20 ans, il y avait trois condamnations sur son passé judiciaire. Premièrement, il y avait une condamnation un vol de voiture, quand il était jeune. Deuxièmement,
complicité de cambriolage.
Et troisièmement, et ça faisait très moche le tableau, si je puis dire, proxénétisme, parce que il avait loué une chambre à une dame qui se livrait à la prostitution.
Voilà.
Donc, si vous voulez, ces trois éléments...
Qui volent un œuf, volent un bœuf.
Ce qu'il y a de terrible dans le système judiciaire, c'est que à partir du moment où un casier judiciaire existe, la personne n'est plus présumée innocente, elle est présumée coupable. Et dès lors qu'elle est présumée coupable, et ben, comme en plus son nom avait été prononcé par Mademoiselle Meillon, c'était formidable.
Et pourtant, il n'avait pas la tête à ça. Franchement,
non.
Même le directeur de la prison dit au juré au deuxième procès, il n'a pas le profil de celui qui commet un acte comme ça.
Alors, on va faire une pause. Simplement rappeler, après tout ce que vous avez dit, là, l'événement, c'est le 9 janvier. Mademoiselle Meillon meurt le 28. Et le 25 novembre de la même année, c'est-à-dire à peine 11 mois plus tard, Guy Mauvillain est condamné après une demi-journée d'audience et dans l'après-midi, il y a 25 minutes de délibéré, à 18 ans de prison. Et il va partir il va rester en prison, 2455 jours, ce qui ne s'oublie pas. Dans un instant, après cette pause, vous allez nous dire, il y a l'enquête de Paul Lefebvre qui a joué un rôle important. Et puis, il y a eu un comité de soutien. Il y a des tas de gens qui ont commencé. Il y a Maître Badinter plus tard en 81, etc. Plein de gens sensés qui se sont dit, mais là, nous sommes dans une erreur judiciaire. Vous nous expliquez pourquoi dans un instant.
Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Et nous revenons donc tout de suite sur ce dossier Mauvillain, erreur judiciaire. On va vous raconter avec mes invités, Maître Jean-Yves Dupeux et Paul Lefebvre, comment, dans quelles circonstances un deuxième procès a eu lieu alors que à l'époque il n'y avait pas d'appel. Mais d'abord, je voudrais, avant de leur redonner la parole, je voudrais qu'on fasse un petit saut dans les années. Donc on a compris, 1975 en janvier, c'est l'agression fatale à Mademoiselle Meillon. En novembre, Guy Mauvillain est condamné à 18 ans de prison. Les années passent, mais il va y avoir, mais on va revenir sur ces années-là où un certain nombre de gens se disent, mais c'est pas possible de garder quelqu'un, surtout que Mauvillain, lui, en prison, n'a jamais ouvert sa valise avec laquelle il est arrivé, parce qu'il était tellement persuadé qu'on allait le libérer. Il avait un alibi, personne ne le croyait. Bon, bref, le 5 juin 1981, on sent que peut-être à cause du changement de gouvernement, l'arrivée de la gauche au pouvoir, on murmure que Maître Badinter peut-être sera garde des Sceaux. C'est quand même quelqu'un qui est aussi un symbole de son côté, de la bonne justice, j'allais dire. Yvette Mauvilain, la femme de Guy Mauvilain, est interviewée par un journaliste de RTL, vous connaissez bien tous les éditeurs, Brice Barillon, et au micro de Brice Barillon, elle revient, Yvette Mauvilain, sur la fameuse phrase qui a fait basculer la vie de son mari.
Moi je suis sa femme, monsieur, et croyez-moi que s'il avait été coupable, j'aurais pas levé le petit doigt. L'enquête est reprise, et pour moi c'est un nouvel espoir qui est ouvert, parce que, mon Dieu, les policiers qui sont là, actuellement, ont l'air de vouloir faire leur travail consciencieusement et avec honnêteté. Je sais que mon mari est incapable de tuer, mon mari n'a pas été tué, mon Dieu, mais et ça fait 23 ans que j'étais avec, j'avais un homme charmant qui ne quittait jamais la maison. Écoutez, on l'a mis sans profession, sans domicile fixe, sans ressources. On l'a fait passer pour le dernier des derniers. Il y a quand même des choses qui sont vraiment anormales. Hein.
Et la petite phrase qui a tout déclenché, finalement, celle de Mademoiselle Meillant, que vous soignez, je crois.
Écoutez, là, je vais vous dire quelque chose. Je lui avais dit, si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez mon mari ou m'appelez moi. Hein. Vous savez, moi, je suis aide-soignante, monsieur, à l'hôpital. Tous les jours, on m'appelle. Hein.
Et le 18 juillet suivant, 18 juillet 1981, Guy Mauvilain va enfin retrouver la liberté après 6 années de prison à Toulouse. Sa peine, en effet, a été suspendue sur décision du garde des Sceaux Robert Badinter en attendant la révision éventuelle de son procès ou la décision de la Cour de cassation. Mais ça, je vous laisserai, Maître Dupeux, nous dire, faire le point juridique et judiciaire dans un instant. Alors, donc, Mauvilain sort de prison, évidemment, RTL est sur les dents, et c'est Maurice Vincent qui l'attend à la sortie de la prison et qui recueille pour RTL Midi les premières déclarations d'homme libre de Guy Mauvilain.
Je vais m'occuper de recouvrer la vie que je n'avais plus en prison, puisque là-bas c'est une vie cellulaire, c'est une vie végétative en quelque sorte, quoi.
Bon, il y a quelques instants vous êtes sorti de prison, mais est-ce que vous êtes un homme libre?
Ah ben, je me sens un homme libre, mais vous savez, je vous dis, le premier jour, les premières heures, on est dans le flou.
Oui, mais votre procès va devoir être refait, révisé en tout cas.
Bien sûr, il le sera très probablement, je repasserai très probablement aux assises à l'automne, je pense.
Vous estimez que cette libération, c'est tout de même la porte ouverte, bien entendu, mais le fait que le ministre de la Justice, en tout cas, lui, vous considère comme innocent.
Ah bah oui, bien sûr. D'ailleurs, il était convaincu lorsqu'il avait étudié mon dossier il y a déjà plus d'un an.
En fait, il sera rejugé en 85, hein, Maître Dupeux. Oui, alors, donc, il y a eu un certain nombre... Vous entrez dans le dossier à peu près à ce moment-là.
En 1980, oui. Dans le courant de l'année 80.
Oui, et là, c'est vous qui faites ce recours auprès de la Cour de cassation pour casser le procès, oui, premier procès.
Ça se fait en deux temps, si vous voulez. Dans un premier temps, nous formons un recours en révision.
D'accord.
Ce recours en révision est d'ailleurs pour beaucoup a eu un auxiliaire formidable qui est le film réalisé par Paul Lefebvre.
Dont on va parler dans un instant, absolument. Oui. Et qui a été diffusé en novembre 1980.
Voilà. Mmh. Et donc ce recours en révision va porter sur deux points assez essentiels à nos yeux. Le premier point, c'est le témoignage de la voisine, Madame Frétard.
Que nous allons entendre.
Qui dit, mais moi, j'ai entendu des bruits de cuisine pendant la
Mauvilain
période
était là, quoi.
Où Mauvilain était censé commettre.
Confirme son alibi. Oui.
Et deuxièmement, c'est le chef du service de neurochirurgie, le docteur Aglin, qui lui-même, interrogé par Paul Lefebvre, dit, mais il y a de très forts doutes sur l'état de conscience d'une personne qui a un crâne dans cet état et qui a passé une heure et demie.
Donc sur ces éléments-là, vous dites, ce sont des éléments nouveaux.
Nous saisissons la chambre criminelle de la Cour de cassation pour demander une révision. Ouais. Sauf qu'à l'époque...
Le garde des Sceaux, c'est Alain Perfit.
Et à l'époque, le code de procédure pénale dit que pour obtenir la révision de son procès, il faut prouver son innocence. Prouver son innocence. Heureusement, les choses ont changé depuis, le code a changé depuis, mais à cette époque-là, il faut prouver son innocence. Alors, il se passe quand même une chose importante.
Maintenant, il suffit qu'il y ait un doute raisonnable.
Oui, maintenant, c'est voilà. Il se passe quelque chose d'important, c'est la projection, la diffusion du film d'Antenne 2 à l'époque, et qui remue beaucoup l'opinion, et vous savez, quand l'opinion est remuée, la chancellerie commence à bouger.
Ah oui, monsieur Béteille.
Le recours en révision que je dépose à ce moment-là
a quand même une certaine écoute à la chancellerie, et la chancellerie, sans d'ailleurs me le dire, mais après tout c'est la procédure, l'enquête secrète, la chancellerie désigne un policier, alors un grand policier, dénommé Nicolaï, qui refait l'enquête sur l'enquête. Il est lui-même tout à fait effrayé en se disant c'est pas possible que ça soit passé comme ça, et les éléments de cette enquête nous sont communiqués. Eh bien néanmoins, on nous dit, mais oui, il y a beaucoup de doutes, mais c'est insuffisant pour constituer un motif de révision.
J'ai relu la lettre de réponse d'Alain Perfit.
Je suis pas sûr que ce soit d'ailleurs Alain Perfit qui
est resté. Non, mais enfin, c'est signé de lui, quoi.
C'est signé de lui, je pense que c'est le directeur des affaires criminelles et des grâces de l'époque. Ouais. Alors, que faisons-nous à ce moment-là? J'avais un de mes amis et correspondants habituels, qui était avocat à la Cour de cassation. Vous savez que ce sont deux professions différentes. Ouais. Et cet avocat à la Cour de cassation, Philippe Vaquet, me dit, mais écoutez, il y a eu dans ce dossier un moyen de cassation qui n'a pas été soulevé.
C'était la désignation des jurés,
oui,
je crois.
Oui, c'était vraiment un moyen de forme, mais un moyen était imparable, il fallait le trouver. Bon. Sauf qu'on n'était plus dans les délais, qu'il y avait déjà eu un pourvoi en cassation qui avait été fait, qui avait été rejeté sans que ce moyen ait été... Et donc, il arrive, je ne vais pas donner un cours de procédure pénale, mais enfin, il parvient à obtenir que la Cour de cassation soit à nouveau saisie, et la Cour de cassation casse décider. Et renvoie devant la Cour d'assises de Bordeaux.
Alors, on fait une pause très brève. On retrouve Paul Lefebvre. D'abord, on va retrouver... l'extrait du reportage où on entend la voisine confirmer l'alibi de Guy Mauvillain, et puis après vous nous parlerez du contexte de cette enquête.
L'heure du crime sur RTL.
Alors maintenant, nous revenons donc en novembre 1980, très exactement le 24 novembre 1980. Il y a sur Antenne 2 une émission qui s'appelle « Question de temps ». Et pour cette émission, Paul Lefebvre réalise une contre-enquête sur l'affaire Mauvillain. Et parmi les éléments très troublants, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, on y reviendra dans un instant, eh bien, il y a la diffusion du témoignage d'une personne que Paul Lefebvre va retrouver pour les besoins de sa contre-enquête, qui va certainement faire basculer en tout cas l'opinion, et l'opinion va commencer à comprendre que vraiment il y a eu deux poids deux mesures au moment de la condamnation de Mauvillain. Cette femme s'appelle Annie Frétard, elle était à l'époque du drame la voisine du couple Mauvillain, et on va entendre le témoignage qu'elle livre à Paul Lefebvre. Elle lui dit qu'à l'heure du crime, donc entre 20h, 20h30, 21h, elle a entendu des bruits dans l'appartement de ses voisins, des bruits banals qui indiquaient que son voisin était bien présent à son domicile, comme lui l'avait toujours affirmé.
C'était au moment où je m'apprêtais à faire mes affaires, je crois, la vaisselle et tout ça. Et puis j'ai dû entendre le bruit de casserole, enfin, je ne sais pas trop quoi exactement. Je suis descendue aux toilettes puisque mes toilettes se trouvaient juste à sa maison. Et là, j'ai entendu effectivement des bruits dans la maison. Enfin, j'ai pas prêté attention à quoi que ce soit. Hein.
Donc à ce moment-là, vous avez réalisé la présence de quelqu'un chez monsieur et madame Mauvillain. Des bruits qui étaient habituels.
Oui, bien sûr. Oh, oui.
Des bruits qui étaient des bruits de cuisine. Et dans l'une de vos dépositions, vous avez dit des bruits de canalisation, de chasse d'eau, etc. Bon. Est-ce que vous avez un repère au niveau de l'heure?
Disons que c'était entre 8h et 8h30, puisque c'est toujours au moment où on terminait de manger. Et à 8h30, donc on voulait toujours voir le programme.
C'était par rapport à la télévision?
Oh, oui, en général, oui.
Vous vous souvenez bien que c'était en somme pendant le journal télévisé que vous avez entendu ces bruits?
Bien oui, juste avant qu'il y ait le film. Je vous dis entre 8h et 8h30, le temps de finir de manger et tout, il était 8h, 8h30 peut-être.
Alors, Paul Lefebvre, ça mérite des explications, parce que la même femme, Madame Frétard, quand elle avait été interrogée en 75 lors de la première enquête, on lui dit, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Elle dit, rien. Mais, en fait, c'est pas comme ça que ça s'était passé.
Elle
avait
été interrogée par deux policiers de La Rochelle, des gros sabots cloutés. Non, mais je suis curieux. Alors, elle est enceinte, là.
Et alors, il faut bien voir les choses. C'est vraiment deux maisons de
mitoyennes,
et même de la cuisine de Madame. Voilà, on voit la cour, la petite courette de Movilla. Bon,
quelles questions posent les policiers? Alors,
les policiers, lui, est-ce que vous avez entendu quelque chose d'anormal? Quelque chose d'anormal. Alors elle leur a répondu.
Ben non.
Alors bon, elle m'a expliqué que les policiers qui l'a questionné, tout ça, elle avait un peu la trouille, tout ça. Bon, en plus elle était enceinte de 6 ou 7 mois,
8 mois et demi.
Non, elle était limite après. Quoi. Bon, limite. Enfin bon. Et alors,
elle dit ben non, j'ai rien entendu.
Elle répond non. Mais et les gars s'arrêtent là.
Et elle a dit plus tard, d'ailleurs.
Non, elle envoie une lettre au procureur de la République.
Oui.
Elle envoie une lettre au procureur de la République en disant, mais attendez, je l'ai entendu.
Si on m'avait demandé, est-ce que vous avez entendu monsieur Movilla, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement, elle aurait dit oui.
Surtout que les Movilla, et lui en particulier, ils avaient une vie, réglée comme du papier à musique, etc. Et lui, il faisait la tambour pour le dîner du soir.
Après, il allait la chercher.
Et il sortait la voiture, il revenait tous les soirs. Ouais. C'était comme ça. Et elle entendait tous les soirs les bruits de cuisine, et la porte du garage se lever, la porte du garage, la voiture partir, etc., etc. Ce témoignage-là, et le fait surtout, que ce témoignage-là a été non exploité, c'est la deuxième base de l'erreur judiciaire. La première, ça a été
se fier à un seul au propos d'une mourante.
Et ça, c'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence grave des policiers, du juge d'instruction, etc., etc., etc. Et même du président des assises.
Elle n'a jamais été entendue par la cour d'assises.
Jamais.
Du moins, de Sainte. Après, nous l'avons fait venir à Bordeaux, bien sûr.
Alors, justement, on va parler dans quelques instants du deuxième procès, puisque le premier procès, vous l'avez dit, a été cassé. Il y avait un motif de cassation, donc dans la manière dont les jurés du premier procès avaient été désignés. Et Movilla va repasser devant une... Il va être jugé en juin 1985. Mais...
Il a fait 7 ans, hein.
Mais, 6 ans.
6 ans, et demi.
Comme on va parler de ce procès... Alors, évidemment, il y a ce que vous venez de dire. Il y a cette femme qui va venir confirmer, évidemment, que Movilla était chez lui. Mais il va y avoir une véritable bataille d'experts avec les neurochirurgiens, les psychiatres, enfin, tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la question centrale. Est-ce que quand mademoiselle est-ce que quand elle a tenu ses propos, cette phrase que ont entendu quand même 3 personnes, elle était consciente, et donc est-ce qu'on peut considérer que ça n'était pas une hallucination? Est-ce que son état pouvait laisser penser que elle était parfaitement consciente? Le docteur Girard était dans le reportage de Paul Lefebvre. Mmh. Alors, on parlera du procès avec vous dans un instant, mais d'abord, Paul, on revient sur les déclarations du docteur Girard, qui va vous confirmer devant les caméras d'Antenne 2, à l'époque, qu'il restait sur ses positions et que Élise Meillant était tout à fait lucide.
Ce que je peux vous dire, c'est la déposition que j'ai faite à ce moment-là. J'ai bien eu l'impression qu'il s'agissait d'une personne lucide. Et ce qu'elle m'a dit, j'ai pu le redire. J'étais convaincu que je devais le faire, car le secret professionnel, je ne devais qu'à l'intéresser. Et si cette personne m'a fait cette révélation, ça ne semblait pas être un secret. Dans le réquisitoire définitif, dont c'est la page 3, on dit... À la réponse à une question que vous auriez posée, savez-vous qui c'est ? Réponse, le mari de Madame Movilla, l'infirmière qui fait des piqûres. Est-ce que cette transcription de vos paroles vous paraît la vérité de ce que vous avez déclaré à la police ?
Ah, tout à fait exact. Ce que j'ai déclaré au juge d'instruction.
Et au juge d'instruction également. Oui.
Voilà, il faut ajouter... Pardon.
Il avait assuré son témoignage. Oui. On le sent dans ses phrases. Il a répété, il a raconté ça à tout le monde. Il est devenu une star, une vedette. Hein. Et maintenant, il donne un témoignage. Il envoie Movilla en prison, rien que pour dire.
Je ne me suis pas trompé.
Et il dit, il va rajouter d'ailleurs ce qui peut troubler les magistrats. Il dit, mais moi, j'ai voulu savoir si elle était consciente. Je lui ai demandé son âge et elle me l'a donné. Donc, je considère, c'est ça, son
d'ailleurs,
raisonnement.
On peut pas ce problème d'âge-là, c'est dans aucun autre procès-verbal.
On ne le voit pas.
Aucun des deux autres.
Lu dans, voilà. Alors, bon.
Non, mais bon.
Bon. Alors, maintenant, maître, il faut revenir sur ce procès, d'abord. Ça doit durer 4 jours. On va écouter un document de l'époque, un document RTL, et on va en parler avec vous après. C'est un document du 27 juin 1985, c'est le début du procès. Toute la presse judiciaire nationale est là. La question centrale, comme je disais, c'est de pouvoir, comment interpréter les propos de Mademoiselle Meillant. Et on va entendre que pour ceux qui assistent à cette première journée de procès, on se rend compte que ça confirmé. Décréter l'innocence de Movilain, ça ne va pas se passer très simplement. Alors, écoutons ce qu'en disait celui qui suivait les débats pour RTL à l'époque, le journaliste Georges Bourdoiseau.
Tout a basculé ce matin avec la déposition d'Ariane Richasse, l'interne du SAMU, qui a prodigué à la victime, Élise Meillant, les premiers soins. Le docteur Richasse était à l'époque une jeune interne, mais elle a observé une procédure médicale qui est un modèle du genre, matérialisé par un rapport rédigé immédiatement après l'agression. On sait que la vieille dame a accusé formellement Guy Mauvilain, une vague relation, d'être son agresseur. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de savoir si Élise Meillant était en possession de toutes ses facultés, malgré ses graves blessures. Si on en croit le témoignage du docteur Richasse, c'était bien le cas. Les textes de réflexe, les indications médicales fournies par la blessée sont éloquents. Ainsi a-t-elle donné le nom de son médicament habituel et précisé son identité, son âge. Son accusation contre Guy Mauvilain prend dès lors une certaine crédibilité. L'auxiliaire médical qui accompagnait Ariane Richasse a confirmé ses propos. On sait donc dès maintenant que l'issue de ce procès tournera autour du témoignage de la jeune femme. Étonnant rebondissement, après, hier, des témoignages de moralité flatteurs pour l'accusé. Un accusé qui bénéficie cependant d'un atout important. Son accusatrice était âgée et gravement blessée. Il reste donc aux avocats de Guy Mauvilain à démontrer que la vieille dame de La Rochelle l'a confondue avec quelqu'un d'autre.
Alors, nous allons faire une pause rapide et puis on va se retrouver pour la dernière partie de l'émission et maître Jean-Yves Dupeux et évidemment Paul Lefebvre vont nous parler de ce procès et nous dire comment la conviction, l'intime conviction du jury a permis l'acquittement de Guy Mauvilain.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Guy Mauvilain, vous comprenez maintenant, je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission, ceux qui l'écoutent en tout cas depuis le début, vous comprenez pourquoi on parlait de cas d'école, d'erreurs judiciaires, parce qu'il y a eu un nombre de, je sais plus comment vous disiez, Paul Lefebvre tout à l'heure,
De badernes
dans cette affaire
dans
terrible.
C'est une belle définition.
Bon, mais il y avait quand même derrière tout ça la liberté d'un homme, Guy Mauvilain, il y a rien de pire que d'être innocent hein, dans un procès d'assises. Maître Jean-Yves Dupeux est son avocat au cours de ce procès et comment on alors j'allais dire on retourne l'opinion éventuelle des jurés là.
C'était un challenge formidable parce que
ça avait 4 jours.
Il y avait 4 jours. On avait le président au début avait réservé 3 jours et puis il s'est aperçu que 3 jours n'étaient pas suffisants. Ça a duré 4 jours. Donc et c'était de 9h du matin à 8h ou 8h30 le soir. Excellent magistrat de surcroît. Mais dont on ne pouvait pas dire qu'il montrait une particulière prédisposition à un acquittement. Mmh. Alors, nous avions pris le soin, ce qui n'avait pas été fait en première instance, de citer beaucoup de témoins. Tous ceux dont on vient de parler, le médecin spécialiste de neurochirurgie qui avait reçu la vieille dame, la voisine. Nous avions cité également les 3 accusateurs, si l'on peut dire, hein, c'est-à-dire le docteur Girard, l'interne et l'ambulancier. Et puis nous avions cité également, nous avions fait travailler des neurochirurgiens de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital de Garches, qui étaient des hommes de très très grande expérience.
L'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'une femme qui vient d'être agressée aussi sauvagement peut avoir la mémoire de ce qui s'est passé une heure et demie plus tôt, quoi.
Exactement,
en fait. Ouais.
Mais ce point-là, curieusement, et c'est encore là une faille extraordinaire de l'enquête et de l'instruction, ce point-là n'avait jamais été déterminé. Et nous avons cité également les 3 pompiers qui sont arrivés sur place. Mmh. Et notamment le commandant qui s'appelait Monsieur Pierre, je me souviens, j'ai revu d'ailleurs sa déposition. Mmh. Et Monsieur Pierre dit, nous avons à la brigade des sapeurs-pompiers un document, un cahier, quasiment un cahier d'écolier qui tient minute par minute les appels, le moment où nous sommes rendus, etc. Et nous faisons des rapports. Et il s'est avéré, mais c'est apparu à l'audience, il s'est avéré que en réalité le temps pendant lequel mademoiselle Meillan avait été dans un coma profond, on peut dire, provoqué par cette extrême,
totalement inconsciente,
extrêmement
cas,
grave, faisait que elle pouvait avoir une mémoire sur des faits anciens, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qu'avait dit Ariane Richas, qui était...
Si vous arrive quelque chose...
Voilà, si vous arrive quelque chose, elle avait cité le médicament qu'elle prenait, elle avait cité son âge, elle avait... Le fait d'avoir été maintenue dans un coma pendant une heure et demie fait que toute la mémoire immédiate s'efface.
Et ça, c'est confirmé à la barre par les neurochirurgiens.
La chronologie est confirmée par les pompiers et les neurochirurgiens qui sont là, certains à qui on avait indiqué quand même préalablement cet élément-là, sont venus témoigner pour dire il peut pas y avoir une mémoire immédiate. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les autres neurochirurgiens, les experts qui avaient été précédemment nommé par les juges d'instruction et qui étaient toujours dans la salle d'audience sont revenus à la barre, je ne sais pas si tu t'en souviens Paul, mais sont revenus à la barre en disant, mais nous ne savions pas ça et si nous l'avions su nous n'aurions pas conclu de la même manière.
Et pourquoi une heure et demie? Et voilà. Pourquoi une heure et demie? Et ben c'est parce que je vais leur mettre une couche. Le docteur Girard, c'est lui qui a retardé parce que
qu'elle soit évacuée vers l'hôpital.
La procédure était beaucoup plus rapide. Mais blablabla, il en a mis en même temps une heure et demie. Alors il y a la distance sur Poitiers, etc.
Bien sûr.
Enfin, je suis encore furieux.
Donc c'est si vous voulez l'un des éléments. Il n'y a pas eu que celui-là, mais c'est l'un des éléments qui a été assez décisif au regard de la conviction des jurés.
Il nous reste très très peu de temps avant la fin de l'émission. Paul Lefebvre, on est tous dans le même état d'esprit d'ailleurs. Il ne faut pas oublier, vous me le faisiez remarquer hors micro, que Mauvilain innocenté...
Qui a tué. Et pourquoi elle a ouvert?
Moi, j'ai
toujours pensé.
Comme Mademoiselle Meillan a ouvert la porte avec ses verrous.
Tous ses cadenas.
Et pourquoi ils sont venus la tuer?
Et pourquoi quel mobile?
Quel mobile?
Et alors, pourquoi a-t-elle déverrouillé? C'est ça qui m'avait frappé. Il y a la photo de la photo. J'avais filmé ça. La photo de la porte avec tous les verrous. Si elle a ouvert tout ça, ça veut dire que la personne qui était derrière la porte, elle croyait la connaître. Or, dans l'entourage de Mademoiselle Meillan, il devait pas y avoir 150 000 mecs, quoi. C'est pas le genre de femme à avoir.
Mais on a vérifié, on n'a rien vérifié auprès des proches de cette
dame. On n'a rien vérifié du tout. Il y a quoi de
sur le mobile, c'est là que c'est quand même incroyable. Parce que, mettons-nous en situation.
Est-ce qu'on a volé quelque chose?
Rien n'a été volé. Les Mauvilains n'étaient pas très riches, mais n'avaient pas particulièrement besoin d'argent.
On n'a rien trouvé chez Mademoiselle
Meillan. Et il faudrait imaginer que Guy Mauvilain serait chez lui, mais son poisson à cuire au courbouillon et les pommes de terre aussi.
À l'autre bout de la ville.
À l'autre bout de la ville, dans la soirée. Il va quoi faire? Il va tuer cette vieille dame? Pourquoi? Comme ça, un acte gratuit. Enfin, c'est absurde. Il revient sans doute ensanglanté, etc. Ouais. Et là, tranquillement, il continue à cuisiner son poisson et il va chercher sa femme. Et puis voilà.
Il nous reste une minute, Maître Dupeu. Comment Mauvilain est décédé depuis?
Il va être aussi,
comment était-il dans ce procès? Il était persuadé que la vérité allait venir ou il doutait?
Il attendait que ça vienne.
Vous savez, l'expérience de l'avocat qui fait que l'accusé innocent se défend toujours mal. Donc, il y avait des moments où il était d'une sincérité, d'une spontanéité qui était formidable. Et puis, il y avait d'autres moments où on avait envie de lui dire, mais défendez-vous mieux. Ouais. Mais ça, vous savez, c'est le mystère des cours d'assises. Surtout... Alors, par la suite, il a mis beaucoup de temps à se remettre. Ils sont partis habiter dans la campagne en Vendée. Et puis, ils ont terminé leur vie tous les deux de manière aussi sereine que possible. Mais quand même, il y avait un lourd passif derrière.
En tout cas, je vous remercie. merci beaucoup tous les deux. Merci Paul Lefebvre. Vous avez abordé dans Les cicatrices de la justice cette affaire
sur
Planète Justice, oui, déjà.
Je n'arrive pas à me calmer sur ce dossier-là.
C'est pour ça, je le savais bien. Il faut d'ailleurs dire que c'est sans doute un exemple formidable le média télévisuel important a beaucoup aidé la défense que j'assurais à l'époque.
Merci Maître Dupeu, merci infiniment. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.
Vous écoutez RTL.